Bonsoir. Depuis le 10 avril, et vous en êtes probablement rendu compte, la nouveauté de la déclaration de revenus 2017, c'est la possibilité de découvrir le taux de prélèvement pour le futur prélèvement à la source. Oui, ah, le prélèvement à la source. Oui, justement. Alors certains y voient Kafka, d'autres ne jurent que par la simplicité. En tout cas, plus le temps de tergiverser. Hein. C'est le 1er janvier prochain, autant dire demain. Et les chefs d'entreprise, eh bien, s'arrachent les cheveux puisqu'ils se découvrent collecteurs d'impôts ou psy, parce qu'il va falloir aussi expliquer justement à leurs salariés pourquoi ils auront moins sur leur feuille de paye. Alors comment convaincre, comment communiquer pour le prélèvement à la source? Est-ce l'heure de vérité? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
On a voulu vous aider dans les décodeurs de l'écho ce soir sur BFM Business parce que vous êtes très nombreux à vous poser des questions. Et d'ailleurs, vous nous l'avez dit hein, sur le compte Twitter des décodeurs de l'écho. On a recueilli un certain nombre de messages. Et pour vous répondre, entre autres, il y a Bruno Parent. Bruno Parent, c'est le directeur général des finances publiques. Voilà, un homme très très important dans l'administration française. Il a choisi les décodeurs de l'écho pour vous exprimer. Bon, on n'est pas là pour critiquer, moi j'ai pas forcément d'avis là-dessus. On est là pour comprendre justement sur ce qu'il va se passer à partir du 1er janvier. Et évidemment, avant, les contribuables qui déclarent en ligne ou sur papier, ils auront jusqu'au 15 septembre pour choisir eh bien l'option dont on va vous parler dans un instant. Bruno Parent est avec nous. Il y a Emmanuel Lechypre, bien entendu, éditorialiste économique à BFM Business.
Moi j'en ai des critiques, vous allez voir.
Très bien, attendez. François Perret, président de l'Institut Anaxagore. C'est un think tank hein, pour soutenir la transformation des entreprises françaises. S'assurer que les lois ne viennent pas entraver leur développement, c'est tout nouveau. Et puis Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME, bah peut-être nouvel acteur dans la collecte de l'impôt en France, hein, il va nous le dire dans un instant.
En train de devenir percepteur.
Ah, peut-être. Oh là là, attention, ne dévoilons pas tout de suite vos arguments et vos questions. Oui, les contribuables, je le disais, ils ont jusqu'au 15 septembre. Il y aura plusieurs options possibles, plusieurs taux possibles avant qu'on retrouve tous nos décodeurs de l'écho. Explication de Mathieu Jolivet.
Par défaut, il s'agira d'un taux personnalisé, c'est-à-dire qu'il prendra en compte le revenu global du foyer. Ce taux sera le même pour le couple, il ne fera pas de distinction entre les salaires. Si justement le foyer veut prendre en compte les écarts de salaire, il pourra alors opter pour l'option du taux dit individualisé. Le montant total de l'impôt ne changera pas, mais il sera ventilé différemment au sein du foyer. Deux taux apparaîtront, un plus élevé pour le conjoint qui gagne plus, l'autre moins élevé pour celui qui gagne moins. Dernière option possible, le taux neutre. Cela concerne les salariés qui ont des revenus annexes et qui ne veulent pas que leur employeur ait connaissance de leur véritable capital. Ce taux neutre leur sera alors attribué, calculé uniquement sur la base du salaire. Ce sera le taux qui sera porté à la connaissance de l'employeur. Le contribuable devra s'acquitter du reste directement auprès du fisc.
Voilà les explications de Mathieu Jolivet. Alors ce prélèvement à la source, on y a consacré déjà plusieurs numéros des décodeurs de l'écho, parce que la réforme elle avait été lancée par le précédent exécutif, puis reportée par le nouvel exécutif justement. On a déjà entendu beaucoup de choses. On va probablement entendre beaucoup de choses ce soir dans les décodeurs de l'écho. Vous êtes là pour nous éclairer, Bruno Parent. Si vous aviez un seul argument pour nous vendre quelque part cette réforme du prélèvement à la source, qu'est-ce que ce serait?
L'impôt s'adapte à votre vie. Aujourd'hui, vous payez un impôt sur un revenu que vous n'avez plus, puisque c'est le revenu de l'année précédente.
L'année avant.
Demain, vous payez l'impôt sur le revenu contemporain. On s'adapte à la situation réelle des gens quasi instantanément. Et notamment dans tous les cas où la vie fait que votre revenu diminue, par exemple, eh bien instantanément, votre prélèvement diminue. Et seul le prélèvement à la source permet ce caractère contemporain du prélèvement. Donc c'est un avantage pour tout le monde, et notamment pour les salariés.
Je perds mon travail quelque part, finalement, je vais moins gagner ma vie, mon salaire sera
exactement
moindre, et donc mon impôt va s'adapter.
L'année où vous avez perdu votre travail,
ça
et non pas
simple,
l'année suivante.
Ça paraît simple sur le papier, un impôt peut-être plus juste, plus fin, un impôt désormais en temps réel. Est-ce que c'est moderne ou pas? Tiens, vous y voyez quoi là? L'épithète que vous donneriez là à chacun, et puis on va essayer de développer. Jean-Hugues Duménil.
Un problème de fond, c'est-à-dire qu'on est en train de transformer les entrepreneurs en percepteurs. On demande aux chefs d'entreprise de remplir un rôle qui n'est pas le sien, de collecter l'impôt. Ça, c'est une question de principe qui nous pose problème. Après, il y a la question de la responsabilité de ce même entrepreneur pour quelque chose qu'il n'a pas demandé, avec des peines lourdes qu'il peut encourir. Et puis, il y a le surcoût pour ces entreprises et la complexité administrative. Et puis, pour terminer cette palette magnifique, le fait qu'il va falloir que le chef d'entreprise explique la situation à ses salariés. Et là aussi, ça va être compliqué.
On va développer ça. François Perret, donc, Anaxagore.
Peut-être une réforme utile, on va en discuter, mais en tout cas une réforme sérieusement anxiogène pour les chefs d'entreprise. D'autant plus que ce sont des chefs d'entreprise de taille assez limitée. Parce que non seulement, et Jean-Eudes l'a rappelé, on ne s'improvise pas collecteur d'impôts, hein, c'est quand même le travail de l'administration des impôts, et on ne demande pas forcément aux entreprises de traiter la perception d'impôts qui n'ont rien à voir avec leur activité. Ça, c'est la première inquiétude. La deuxième inquiétude, elle est extrêmement concrète. Tout ça va générer du temps de mobilisation des employeurs en termes d'information, de communication auprès des salariés pour leur expliquer les règles. Vous savez que l'inspection générale des finances a estimé le coût général de préparation pour les entreprises entre 300 et 400 millions d'euros en tout. Mais il faut savoir que ce coût sera sans doute 5 à 6 fois plus élevé pour les TPE et les PME que les ETI et les grands comptes.
Emmanuel Lechypre, comment qualifier cette réforme? D'un mot, s'il vous plaît, puis après on développera tous ces arguments.
D'un mot, je dirais superflu. Je dirais superflu parce que j'entends bien les arguments qu'a avancé...
Emmanuel, on dit que la France est l'un des rares pays de l'OCDE avec la Suisse, l'Italie, Singapour, à ne pas avoir adopté le principe de la retenue à la source. Pourquoi on ne le ferait pas?
Bah, on le ferait pas...
Vous dites superflu.
Oui, alors
les
superflu.
Les autres sont pas morts, non?
Non, mais je veux dire, superflu, d'abord, les arguments qui sont avancés en faveur, effectivement, de la retenue à la source, il y a celui qui a été évoqué, qui est très important, qui est de dire, bah effectivement, on ajuste l'impôt au revenu de l'AD. Il y en a un autre, hein. C'est vrai que c'est beaucoup moins compliqué finalement pour la gestion familiale de se dire bah ce que j'ai en bas de ma fiche de paye c'est du super net,
voilà.
C'est du super net et voilà. Après pour l'État, on voit très bien les avantages, hein. L'avantage c'est quand même d'externaliser la collecte quelque part. Il y a un avantage et pour moi c'est peut-être le plus important en matière de réglage de la politique économique. C'est-à-dire que quand vous prenez une mesure fiscale, eh ben cette mesure fiscale, elle s'applique pas sur la conjoncture de l'année suivante, elle s'applique sur la conjoncture de l'année en cours. Vous êtes un pays qui rentre en récession, vous voulez baisser les impôts pour encourager l'activité, pour contrer la récession, vous les baissez tout de suite, et ça a un effet tout de suite et pas l'année d'après. Donc ça, c'est un avantage. Après, pourquoi je dis que c'est superflu? Parce que dans l'argument qui a été avancé par Bruno Parent de dire il s'adapte à la vie, en réalité, quand vous êtes mensualisé, bon, bah vous avez déjà quelque part intégré un petit peu
le fait qu'on
ce côté.
On a moins d'argent sur le compte à la fin du
deux,
mois.
Avec la déclaration pré-remplie qui est quand même une avancée technologique phénoménale et qui nous fait gagner à tous des soirées entières. C'est formidable. Donc oui, avec ça, en quoi c'est vraiment utile cet ajustement, surtout que il faut le souligner, dernier point, quand vous avez cette situation de variation de revenus d'une année sur l'autre qui peut vous mettre en difficulté avec les impôts, objectivement toutes les expériences que vous pouvez avoir autour de vous de gens qui vont s'adresser honnêtement entre guillemets à leur centre des impôts pour leur expliquer leurs problèmes, honnêtement les centres des impôts font preuve quand même d'une compréhension qui est quand même assez grande. Donc c'est pour ça que je trouve que l'argument de dire il s'ajuste à votre vie, je trouve que il y a beaucoup de choses déjà qui ont été faites pour nous faciliter la vie, sachant que, rappelons-le, hein, c'est une réforme du mode de prélèvement, pas du tout de la fiscalité.
Non, tout à fait.
En elle-même. C'est pour ça que je dis que c'est une réforme superflue.
Alors, bon, Bruno Parent, juste pour répondre sur le superflu, on reviendra après sur les difficultés que ressentent nos deux chefs d'entreprise, enfin en tout cas ceux qui représentent les chefs d'entreprise, François Perret et puis Jean-Yves Duménil, donc secrétaire général de la CPME, et dont beaucoup aussi sont à l'antenne et vous écoutent également. Superflu ou pas?
Écoutez, c'est pas du tout notre avis, mais pour une raison assez simple, c'est qu'on connaît assez bien l'administration fiscale, les problèmes que pose le système actuel à nos contribuables, enfin à nos concitoyens. Pourquoi? Parce que du fait de ce décalage d'un an que je mentionnais il y a un instant, ils viennent nous voir en disant mais moi je n'ai pas l'argent pour payer, accordez-moi des délais, il faut faire des démarches. Certes, je vous remercie d'avoir dit qu'ils étaient volontiers accueillis, mais il n'empêche que l'impôt qui est dû reste dû. C'est ça la grande différence. Avec le prélèvement à la source, c'est une forme d'automaticité. Vous n'avez pas de démarche à faire, vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous avez des difficultés, puisque vous n'en avez plus, puisqu'on paye l'impôt sur le revenu sur un revenu qu'on vient de toucher. Donc je crois honnêtement que ce n'est pas superflu. D'ailleurs, au demeurant, c'est peut-être pas totalement par hasard que tous les pays développés, ou quasi tels, l'ont établi, et personne n'est revenu en arrière.
Parce qu'ils ont des systèmes fiscaux qui sont plus simples que les nôtres. Il n'y en a aucun dans tous ces pays qui ont un système fiscal aussi compliqué que le nôtre, avec autant de tranches, avec autant d'exemptions, avec autant de niches fiscales, etc. C'est ça qui pose problème aussi. On aurait un système fiscal simple, ça créerait peut-être pas non plus autant de stress du côté des entreprises.
Juste un mot, cette complexité, elle existe. Ouais. Sauf qu'avec le prélèvement à la source, elle est complètement gommée, puisque ça se résume à un taux. On y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est uniquement ça qui va circuler dans le système d'information. Donc effectivement, les entreprises jouent un rôle, comme en matière de cotisation sociale, comme en matière de TVA. Mais fondamentalement, il faut avoir à l'esprit aussi que c'est un système totalement automatisé. On s'appuie sur la déclaration sociale nominative, dont on sait qu'elle est obligatoire depuis le 1er janvier 2017 pour l'ensemble des entreprises. Et si j'ose dire, dans la plupart des cas, si on se met à la place du contribuable, il n'aura rien à faire. Ça s'adaptera automatiquement. Et dans les logiciels de paye des entreprises, c'est ce que nous sommes en train de tester avec succès, c'est automatisé.
Alors Jean-Yves Duménil, CPME.
Je crois qu'il y a une inquiétude à la fois du côté des chefs d'entreprise, mais aussi des salariés. C'est-à-dire que notamment le problème de la confidentialité est un sujet qui préoccupe aussi les salariés. Les gens n'ont pas forcément envie, et le chef d'entreprise ne le demande pas d'ailleurs, à ce que chacun connaisse l'état des ressources de la personne qui travaille à côté, le salaire de son conjoint, etc. Or, là, avec le dispositif qu'on nous propose, certes, les choses sont automatiques. Néanmoins, il y aura une démarche à faire par l'entreprise et on a un risque sur la confidentialité.
C'est vrai, je vous donne la parole,
donc,
François Perret.
Donc, on a là quand même une véritable inquiétude aussi côté salarié, que les entreprises, encore une fois, ne demandent pas. Et alors, la chose qui nous heurte le plus, c'est ce qui est prévu dans le texte, ce sont les sanctions.
J'en dirai un mot, si vous voulez.
Notamment, s'il y a une fuite...
Une amende de 15 000 euros et une peine pouvant aller jusqu'à un an de prison, oui. Si justement, on ne préserve pas cette confidentialité.
Non, si on la viole volontairement, on est au pénal. Il faut l'intentionnalité. J'imagine pas que des chefs d'entreprise s'amusent à ça.
Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que les gens ne s'amuseront pas à ça, effectivement. Ça, là-dessus, on est totalement d'accord. Néanmoins, on mélange le champ du fiscal et le champ du social. C'est-à-dire que là, imaginons demain qu'il y ait une difficulté avec un salarié, vous pouvez être tranquille que demain, dans le panier de ce qui sera demandé, il y aura la fuite de confidentialité. C'est évident. On va dire, Madame Michu connaissait mon taux applicable. Pourquoi est-ce que le chef d'entreprise peut s'expliquer? C'est comme ça que ça va se passer demain, dans la pratique.
Alors, pardon, je vous
avais
interrompu.
Quelle que soit la volonté de départ.
Jean-Yves Duménil, on a eu des questions. Marie-Hélène, qui dirige une PME dans les Bouches-du-Rhône, je ne sais pas si vous la connaissez, elle nous demande comment elle va devoir communiquer auprès de ses salariés. C'est vrai, comment gérer, vous, les chefs d'entreprise, vous représentez les entreprises, les demandes de salariés qui vont voir moins sur leur feuille de paie? Il faudra expliquer que ce n'est pas forcément vous, les patrons, mais en même temps, comment vont gérer les dossiers d'augmentation? Le patron, François Perret, le patron, à partir du pourcentage que le fisc va lui communiquer, saura si son collaborateur, il est aisé ou pas. À la question, est-ce que je peux avoir une augmentation? La réponse,
de toute façon,
varier, non,
on sait que ça va être très compliqué et que l'employeur va se retrouver dans des situations d'information, on va dire contradictoires. C'est-à-dire qu'on sait très bien que deux salariés à rémunération identique, du fait de la diversité des taux qui peuvent être pratiqués, vont se retrouver avec un salaire net à verser qui sera différent. Et donc, il va falloir faire preuve, en effet, de beaucoup de pédagogie. Je pense que cette pédagogie, il faut qu'elle associe véritablement, en effet, l'ensemble des acteurs. Elle ne pourra pas reposer uniquement sur l'employeur. Moi, je veux revenir, en effet, sur la problématique des sanctions, parce que au fond, on est en train de créer la double peine. Moi, je ne renie pas les avantages présumés du prélèvement à la source, mais le fait que non seulement il repose sur une charge supplémentaire pour l'entrepreneur, mais qu'en plus il y a cette sanction derrière. Moi, là-dessus, ce que je revendique au nom des entrepreneurs, c'est le droit à l'erreur, précisément. On a un contexte législatif magnifique par lequel le gouvernement a déposé un projet de droit à l'erreur. Il y a quelques
c'est
jours,
Gérald Darmanin qui le défend,
oui. Défendu par Gérard Darmanin, mais attention, dans ce projet actuel de loi de droit à l'erreur, il n'y a pas d'extension prévue au prélèvement à la source. Le Sénat, il y a quelques jours, l'a demandé expressément. Je vous rappelle qu'il était prévu également et recommandé par l'Inspection générale des finances. Aujourd'hui, je comprendrais mal qu'un gouvernement bien intentionné à l'égard des entrepreneurs et qui veut faire preuve de pédagogie, eh bien, ne fasse pas l'effort de tendre la main à l'entrepreneur avec le droit à l'erreur.
Bruno Parent, avec nous, le directeur général des finances publiques dans les décodeurs de l'écho. Allez-y, monsieur Parent.
Cette demande, ce souhait est tout à fait légitime et d'ailleurs, il est satisfait. Je veux dire, le droit à l'erreur, il est général. Il ne s'applique pas isolément au prélèvement à la source ou à tel ou tel autre impôt. C'est l'ensemble de l'administration fiscale, d'ailleurs, d'une certaine manière, ça a été dit tout à l'heure, qui, évidemment, sépare le bon grain de l'ivraie et sait distinguer les gens qui se sont trompés, c'est la majorité de nos contribuables en matière fiscale, des fraudeurs qu'on traite autrement. Donc, vous avez tout à fait raison là-dessus, c'est complètement acquis. Je reviens un instant sur la confidentialité, parce que c'est vrai que ça a fait débat. D'abord, si vous permettez, une première observation, si je vous cite le taux de 8% et que je vous demande de décrire le patrimoine et les revenus de celui qui aurait un taux de 8%, je vous souhaite bon courage pour le reconstituer. Mais néanmoins, on a pris cette question très au sérieux. Très au sérieux, et c'est pour ça qu'on a offert une option. La plupart des contribuables auront un taux...
Parlons de micro, s'il vous plaît.
La plupart des contribuables, auront un taux de prélèvement entre 0 et 10%. Vous voyez, donc on est dans l'ordre des nuances. 90% entre 0 et 10%. Mais néanmoins, on a prévu effectivement l'option pour ce qu'on appelle le taux non personnalisé, le taux neutre, pour quelqu'un qui vraiment se dirait que mon employeur connaisse mon taux à 8%, ça me gêne. Eh bien, dans ce cas-là, il ne sera pas diffusé à l'employeur qui aura... natif dans ces logiciels de paye, un barème qui s'appliquera au salaire, comme si la personne était célibataire, par exemple. Donc là aussi, c'est automatisé.
Donc la confidentialité, elle sera respectée.
Totalement respectée.
Les amendes, c'est la crainte de Jean-Yves Duménil, de François Perret.
Mais je comprends tout à fait la question. Mais...
Vous parlez de double peine même, François Perret.
Pardon, il y a peut-être un tout petit peu d'exagération. Non mais, je me suis permis de réagir tout à l'heure, parce que là, on parle des cas dans lequel le législateur a prévu des situations probablement inédites et qui peut-être même ne surviendront même pas, des cas où il y aurait malveillance. Donc on est au pénal, on est avec le principe même du pénal de l'intentionnalité. Et donc
vous avez parfaitement raison, mais avouez qu'en termes d'affichage, annoncer en même temps la mise en place du prélèvement à la source et la possibilité d'une incrimination pénale avec 15 000 euros d'amende et un an de prison,
c'est
quelque chose qui peut choquer. Or, ça a été annoncé exactement sous cette forme-là.
Je comprends, donc, alors même qu'on serait probablement d'accord pour dire que le respect du secret professionnel s'impose à tout chef d'entreprise et ceci préexiste au prélèvement à la source et aux sanctions.
Mais pourquoi donc, avoir fait le lien précisément comme ça a été
l'employeur percepteur, est-ce que c'est vraiment son rôle justement? Emmanuel, vous soupçonnez quelque part de vouloir externaliser la collecte. Est-ce que c'est pas contradictoire en effet avec le discours ambiant et salué, qu'on salue régulièrement sur BFM Business, justement, autour de l'allègement des contraintes administratives? Bruno Parent.
Oui, écoutez, d'abord parce que je pense très sincèrement que ces charges, elles existent, je suis pas là pour les nier, effectivement, tout retour sur investissement suppose un investissement, il y a un changement, donc il y a forcément des questionnements. Mais cette charge, je pense, n'est pas aussi importante que quelquefois on le dit, pas forcément ici, et elle a quand même un corollaire. Je disais tout à l'heure que c'était plus avantageux pour les salariés, plus confortable, moins source de soucis. Et moi, j'imagine volontiers que les chefs d'entreprise qui, par définition, se soucient de leurs salariés, ne peuvent pas être complètement indifférents au fait que le sort de leurs salariés, vis-à-vis de l'administration et de l'impôt, sera meilleur. J'ajoute d'un mot, si vous permettez, parce que c'est un point très important que vous avez souligné. Il faut que les contribuables de ce pays s'adressent et continuent de s'adresser à nous, à l'administration fiscale. Il ne faut pas casser les pieds, des chefs d'entreprise par des questions qui relèvent de nous.
Ça risque d'être le cas. Ils vont avoir la file d'attente
de
leur bureau en disant « Mais monsieur, cher président ou cher patron, pourquoi je touche moins ?»
Sachant que c'est quelque chose qu'on a déjà connu, notamment avec la mise en place de la prévoyance obligatoire dans les entreprises de moins de 20, où c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les salariés poussent la porte du patron, surtout dans les petites boîtes, en demandant comment se fait-il,
je n'ai
pas été remboursé, etc. On craint la même chose.
Et c'est pour ça que nous allons marteler pendant les quelques mois qui nous restent, y compris dans les médias, y compris dans les enquêtes.
C'est pour ça que vous êtes là.
Que ce serait une erreur de s'adresser à l'entreprise. Ce n'est pas son job. Et donc nous allons marteler, nous allons tympaniser médiatiquement tous nos contribuables pour leur dire, vous avez une question sur le prélèvement à la source, adressez-vous à l'administration fiscale et pas à votre employeur.
Le timing, franchement, simplification, complexification, tout à l'heure Emmanuel nous parlait de superflu. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? Écoutez Xavier Fontanet, qui est professeur de stratégie à la fois HEC et sur BFM Business. Voilà ce qu'il nous disait.
Je dirais que la situation actuelle, c'est que nous avons en gros 256 impôts en France, je crois, et les impôts sont d'une complexité très énorme à calculer. Donc moi, je dirais, écoutez, c'est une bonne idée, mais écoutez, descendons à 50 impôts. Hein, quand il y en aura 5 fois moins, d'accord pour le prélèvement à la source. Parce que dans l'état actuel, à mon avis, c'est... On va créer une complexité et de l'excitation. Il y a peut-être des choses plus importantes à faire avant.
Voilà, il y avait des choses plus importantes, nous disait Xavier Fontanet. Le prélèvement à la source aussi, c'est ce que nous dit Didier. Peut-être une avancée dans un système fiscal simple en France est assurément une complication.
Eh bien, l'un n'exclut pas l'autre. Fromage et dessert, c'est mieux que l'un ou l'autre.
Voilà, c'est simplifié comme ça.
J'ajoute quand même dans le prolongement des propos de Xavier Fontanet, que le calendrier, et je vais le dire, c'est un peu une litote, n'est pas optimal. Pourquoi ? Parce que tombe cette année précisément sur le dos de l'entrepreneur une multiplicité d'obligations réglementaires. Une trentaine de décrets d'application issus de l'ordonnance travail, qui est une réforme par ailleurs dont on ne conteste évidemment pas l'utilité. Le devoir de vigilance et la loi Sapin 2, qui comporte des obligations en cascade des grands groupes vers les PME. Et puis enfin, le 25 mai prochain...
RGPD,
qui demande là aussi un effort colossal pour un chef d'entreprise de 10, moins de 10 ou moins de 20 salariés qui n'a, rappelons-le, pas d'équipe RH pour mener à bien ces différents chantiers et qui va devoir se reposer sur des accompagnements extérieurs, Fabrice, le cas échéant coûteux.
Alors, Jean-Eudes, Emmanuel et Bruno.
Pardon, Parra. Juste pour terminer dans les Jean-Eudes obligations, effectivement, on peut rajouter ce qu'on appelait les bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire que l'obligation pour le chef d'entreprise de déclarer qui est dans sa gouvernance, là encore, je vous rappelle, si c'est pas fait, 6 mois de prison à la clé pour une démarche administrative. On peut parler des logiciels de caisse sécurisés, là encore, c'est une peine extrêmement lourde si on l'applique pas. Donc ce que disait François Perret est parfaitement exact. C'est-à-dire que on a un corps de mesures aujourd'hui qui sont plutôt positives pour les entreprises et en même temps dans la pratique, on a ce qui est vécu comme des contraintes supplémentaires, notamment sur les petites boîtes.
Emmanuel.
Non mais c'est vrai qu'il y a une forme d'épuisement de la réforme permanente. Hein, et c'est vrai qu'on sort de la DCN, etc. Donc il a fallu s'y adapter. Et il y a toujours, une fois que vous avez fini un chantier, il y en a toujours un nouveau qui revient. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est compliqué. Après, il va se passer ce qui se passe toujours quand vous changez de référentiel. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand on est passé à l'euro. Ah, voilà. Il va falloir s'habituer à des nouveaux standards. C'est-à-dire que le salaire, il va falloir s'habituer au salaire que vous trouvez sur votre fiche de paie.
Vous dites finalement, c'est plus un problème d'habitude qu'autre chose.
Ah, je pense qu'après, évidemment, une fois que tout ça sera mis en place,
on aura oublié.
Peut-être que on trouvera que c'est pas très gênant. Mais c'est vrai que c'est quand même assez déstabilisant.
Bruno Parra.
Non mais personne ne peut être insensible à l'énumération. J'observe simplement, mais c'est une remarque un peu générale, c'est que les réformes, c'est jamais le bon moment pour les faire. Je le dis parce que le prélèvement à la source, ça fait combien de temps qu'on en parle? 20 ans, 30 ans, 40 ans?
Bon oui, enfin je vais pas demander à Emmanuel.
Les voix les plus autorisées, les plus diverses se sont exprimées à multiples reprises pour dire qu'il fallait faire cette réforme et de ne pas la faire était la figure emblématique d'une France qui ne se réformait pas. Donc je comprends l'objection.
Pour le coup, on aurait fait la réforme des impôts.
Oui.
Là ça aurait beaucoup plus parlé évidemment.
En même temps, Bruno Parra, alors je vais faire un petit peu de fourberie, un petit peu de vacherie, mais après la direction générale des finances publiques, elle était prête apparemment depuis un certain temps. Pourquoi attendre 2019, le 1er janvier? Le calendrier, est-ce que quelque part, il n'était pas un petit peu politique, histoire qu'on se rende bien compte sur la feuille de paye depuis le mois de janvier de la baisse des cotisations sociales, donc annoncée par le gouvernement Philippe et le président de la République?
Si la question est vraiment politique, vous comprenez que j'y répondrai pas, mais je vais quand même vous répondre sur un autre champ. Vous avez un nouveau gouvernement qui arrive, qui trouve, dans l'escarcelle, si j'ose dire, voté par le Parlement, excusez du peu, quand même, un projet qui a une certaine ampleur, qui touche 3 millions d'entreprises, 38 millions de foyers fiscaux. Bon, on peut considérer peut-être qu'il a un petit temps d'inventaire pour se poser les bonnes questions à ce propos. Et effectivement, ça l'a conduit à dire, laissons-nous un an de plus, puisque je rappelle qu'à l'origine, la réforme devait s'appliquer au 1er janvier 2018.
Bien sûr.
Ça va nous permettre d'améliorer les choses, et c'est ce qui s'est produit.
Ça vous a aidé, vous, Jean-Yves Duménil, les entreprises, quand même, d'avoir
c'était demandé,
un an
d'ailleurs.
De plus, d'avoir un an de plus.
C'était demandé.
Ce qu'on souhaitait, c'est qu'il puisse y avoir une étude d'un, qu'il puisse y avoir effectivement un an de plus pour réaliser une étude d'impact.
Une expérimentation.
Il y en a eu ou pas? Qu'est-ce que ça a donné ou pas?
Oui, on nous a dit que c'est effectivement, elle avait eu lieu, mais je vous avoue que nous avions, nous, CPME, proposé, alors au ministre de l'époque, qui n'était pas Gérald Darmanin, des entreprises, un panel d'entreprises
Michel Sapin, donc,
soumises
à
l'expérimentation.
Christian Eckert.
Et malheureusement, on n'a pas eu gain de cause. Et c'est vrai qu'on a eu assez peu de retours sur cette expérimentation.
Non,
on nous a dit qu'elle avait
pourquoi
eu
bon, dit, mais pourquoi on dit que pourquoi cette réforme est en plus superflue, c'est que il fallait la voir aussi comme une étape vers une évolution de notre système fiscal. Il faut rappeler que François Hollande, dans ses premières intentions, rappelez-vous qu'il y avait cette idée de fusionner quand même l'impôt sur le revenu, et la CSG, pour en faire quelque chose de très progressif.
Et ça, ça peut être précurseur.
Ah bah, c'est-à-dire que si, oui, maintenant que vous faites la retenue à la source. Ouais. Effectivement, là, vous avez quand même fait une partie technique du chemin vers ce type de rapprochement.
Bon, on continuera dans un instant. Le prélèvement à la source, est-ce l'heure de vérité? J'ai encore plein de questions à vous poser, des questions très pratiques avec des réponses courtes, hein, évidemment. Et on continue avec nos amis qui représentent le monde de l'entreprise, la CPME, l'Institut Anaxagore, Emmanuel Le Chip et Bruno Parent, le patron, le directeur général des finances publiques. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Alors évidemment, vous vous posez beaucoup de questions sur ce fameux prélèvement à la source, hein, que vous soyez particulier ou chef d'entreprise, bien entendu, hein, communiquer, il va falloir vous, la puissance publique, vous,
absolument,
la direction des finances publiques, expliquer peut-être que la communication, justement, ça sera un enjeu majeur de la réforme pour aller se convaincre, justement, du bienfait de cette réforme ou non, enfin bon, pour ceux qui en doutent. Oui, tiens, vous avez lancé une campagne de communication massive, hein, justement, vous, les impôts, puisque depuis 10 jours maintenant, eh bien, on peut choisir le taux, hein, qui sera appliqué au prélèvement à la source à partir de l'an prochain. Sylvain Aurébi, vous le connaissez, vous l'adorez, il intervient régulièrement donc sur BFM Business, il est chef d'entreprise à la tête de Kousmiti. Il est allé sur votre site. Et alors ?
Je me suis connecté hier sur le site des impôts et je cherchais mes échéances à payer. Et puis on m'a mis un gros message. Regardez le prélèvement à la source, apprenez sur le prélèvement à la source. Alors j'ai cherché la petite croix pour le faire disparaître, et pas du tout. Donc on m'a forcé à regarder pendant pas loin de 2 minutes ce que c'était que le prélèvement à la source, sans que j'aie le choix. Donc j'étais très embêté. C'était sur YouTube en plus, qui est un choix assez bizarre. Bon bah maintenant je sais ce que c'est que le prélèvement à la source, je suis tellement content qu'on l'ait fait.
Voilà, un petit peu ironique avec Jean-Baptiste Tuel.
Non, je suis sûr qu'il est au premier degré.
Oui, donc c'est quoi ce site sur YouTube? Il y avait pas d'autre chose? Il y a pas Dailymotion par exemple? Parce que certains ont dit "Oh là là, attention, ça va permettre de recueillir, de croiser un grand nombre de données sur les internautes et d'offrir tout ça à Google sur un plateau." Qu'est-ce que vous dites, vous, Bruno Parent?
Je vais vous répondre, mais d'abord un mot quand même. On veut toucher 38 millions de foyers fiscaux, quasiment tous les Français.
Ouais, ouais.
Le petit message, il dure 1 minute 40. Et il se termine par quoi? Ça rejoint notre propos d'il y a un instant. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre administration fiscale. Donc, soit on veut faire passer des messages, et effectivement, 1 minute 40, ça ne paraît pas outrageant, même si c'est un peu obligatoire, j'en conviens, soit on ne veut pas. Il faut utiliser tous les médias. Sinon, on ne touchera pas la population et nous aurons collectivement un problème. Alors après, YouTube, il y a des tas de sites gouvernementaux, de ministères qui utilisent cette plateforme relativement connue. Il y a absolument aucun risque d'aucune nature que des données confidentielles concernant les contribuables soient aspirées par qui que ce soit. Ça n'existe pas.
Un mot, Jean-Yves Duménil, secrétaire général de la CPME.
Juste un petit clin d'œil dans le côté un peu taquin qui vient d'être évoqué.
Par Sylvain Rébi.
Exactement. Il y a un numéro effectivement qui est mis à disposition des salariés qui veulent des renseignements auprès de l'administration sur le prélèvement à la source. Et on partage tout à fait l'objectif de dire que notre intérêt commun, c'est de diffuser le plus largement possible l'information. Donc,
absolument,
c'est un petit côté taquin. Mais néanmoins, est-ce que vous savez que quand le salarié ou le français appelle sur ce numéro est surtaxé. Alors, donc il appelle pour avoir des renseignements sur la façon de payer l'impôt et on le surtaxe en passant. Alors je sais bien qu'il n'y a pas de petits profits et que les recettes de poche sont toujours bonnes à prendre, mais malgré tout c'est quand même un tout petit peu surprenant.
Écoutez, et d'abord...
désendetter le pays, on va dire ça. Oui.
Non, bah, si ça suffisait, alors là, il faudrait pas se gêner. Hein. Non, d'abord, c'est pas nouveau. Hein, des centres d'appel qui répondent aux contribuables sur les questions fiscales, il en existe depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, il y a un petit ticket modérateur de quelques centimes qui correspond à peu près à un appel local. Ça n'a jamais soulevé de difficultés avec nos usagers, qui pourtant ne sont pas toujours excessivement tendres avec l'administration fiscale. Donc on ne l'a pas changé à la faveur du prélèvement à la source. Peut-être un jour cela deviendra-t-il gratuit, mais pour le moment c'est un peu payant.
Question pratique, essayez de me répondre le plus furtivement possible, parce qu'évidemment on ne peut pas répondre à tous les cas. Le prélèvement à la source, quel revenu concerné ? Est-ce qu'on remplira toujours une déclaration de revenus, est-ce qu'on va signaler au fisc les situations qui donnent droit à une réduction d'impôt, les pensions, les revenus du capital, l'emploi d'une femme de ménage, les travaux de rénovation, si l'impôt sur le revenu 2018 disparaît, les niches qui sont associées, est-ce qu'elles vont disparaître là aussi? Qu'est-ce qui va se passer justement?
Très simple, on continuera à faire sa déclaration de revenus comme avant. Et comme il a été dit, c'est une réforme du recouvrement de l'impôt sur le revenu. Personne ne touche, ne paiera plus, ou paiera moins d'ailleurs, à la faveur de cette réforme. Donc, énormément de choses sont inchangées.
Donc, la femme de ménage, les travaux à domicile, style plomberie, avec tous les artisans qui sont rattachés à la CPME, par exemple, il y aura un impact ou pas? Non, ça va changer ou pas, ça, Bruno Parent?
Sur la longue durée, ça ne change pas. La seule chose qui change, c'est que les revenus courants de l'année 2018 ne seront pas taxés. Pourquoi ? Comme vous allez payer en 2019 sur vos revenus de 2019. Si on avait taxé les revenus de 2018 selon le mode habituel, il aurait fallu payer deux fois en 2019. Même avec la dette de l'État, on n'a pas pensé à une solution de cette nature. Donc on neutralise les revenus courants 2018. Et donc c'est plutôt un avantage.
Donc l'emploi à domicile pour 2018, je pourrais récupérer la somme.
On neutralise l'impôt, mais on ne neutralise pas les avantages.
Bon, d'accord.
Et donc effectivement, s'agissant par exemple des emplois à domicile, on a même prévu une avance de trésorerie au bout de quelques mois, début 2019, sont restitués intégralement aux contribuables, comme il l'était par le passé. De ce point de vue-là, ça change pas.
Et en sens contraire, si je fais une super opération, je gagne des bonus, je revends des actifs, etc.
Alors,
en 2018,
si je touche mon bonus en janvier 2018 et en décembre 2019, en décembre 2018, par exemple.
Il y a un dispositif que chacun peut comprendre parce que on est aussi tous soucieux de l'égalité devant l'impôt. Et l'égalité devant l'impôt, ça suppose d'être un petit peu précautionneux par rapport à des astuces, on va appeler ça comme ça, qui pourraient conduire un certain nombre de contribuables, peut-être modestes, à faire un peu d'optimisation. Donc le législateur, dans sa grande sagesse, pardon du pléonasme, a prévu effectivement des dispositifs anti-abus. En gros, pour faire simple, on regarde sur 2-3 ans ce qui se passe, avant, après. Si c'est à peu près stable, on ne dit rien. Soit il y a des grosses variations, on s'en explique avec l'administration fiscale, le cas échéant.
Il y aura de la tolérance quand même.
Mais bien entendu.
S'il y a vraiment un gros écart, oui, mais bon, sinon vous serez...
Et puis il y a des écarts qui peuvent être tout à fait justifiés et qui ne donnent lieu à aucune pénalisation, bien entendu. On parlait tout à l'heure de gens qui perdaient leur emploi. Souvent, quand on perd son emploi, on a une indemnité. D'ailleurs, la plupart du temps, elle est non imposable. Ça ne change pas.
François Perret, président de l'Institut Anaxagore.
Inscrivons la tolérance dans le droit. Hein. Comme ça, en termes de confiance de la part du particulier, de la part des entreprises, on gagnera beaucoup. Moi, je voulais revenir quand même sur un point qu'on n'a pas évoqué, c'est les situations particulières. Parce qu'au fond, on a compris que techniquement, il y avait évidemment un certain nombre d'ajustements à faire, je dirais, dans une entreprise classique. Mais on sait aussi que grâce à la réforme préalable de la déclaration sociale nominative, je dirais que les taux de prélèvement vont pouvoir être intégrés de façon automatisée dans la plupart des entreprises. Moi, j'aurais voulu entendre effectivement le directeur général des finances publiques sur la question des 60 000 entreprises qui sont pas encore passées à la DSN. J'aimerais l'entendre sur toutes les situations particulières. Qu'est-ce qui va se passer quand les employés travaillent à l'étranger? Qu'est-ce qui va se passer avec les jeunes embauchés alors qu'il y a des déclarations mensuelles que devront produire nos chefs d'entreprise? Donc, en fait, comment est-ce qu'on échappe à cette usine à gaz également. Et les indépendants, c'est ça les craintes qu'on peut avoir.
Oui, ce sont des très bonnes questions, si je puis me permettre, même si ça ne doit pas faire perdre de vue que pour l'immense majorité et des entreprises et des contribuables, c'est simple, c'est mieux qu'avant. Mais je réponds à votre question sur les quelques entreprises, elles sont modestes en nombre, mais elles méritent considération évidemment, qui ne sont pas encore passées à la déclaration sociale nominative que vous citez. Il y a un dispositif qui se substituera à la DSN, qui s'appuie le titre emploi simplifié, TESAS, quand on est dans le monde agricole, et qui permet de faire la formalité dans de bonnes conditions. J'ajoute quand même que les quelques 60 000 entreprises que vous citez, je prends votre chiffre, je ne connais pas dans le détail, on est encore que en début d'année, en quelque sorte. Il n'est pas exclu que d'ici la fin de l'année, elles adoptent la DSN. Donc ce chiffre a vocation à diminuer. Mais néanmoins, s'il en reste, il y a une solution. Deuxième observation, les jeunes embauchés. Ah, c'est vrai que là, il y avait une petite difficulté technique. Si on ne connaît pas le salarié à un moment donné, il est difficile pour nous, administration, d'envoyer un taux à son employeur qui lui-même vient de découvrir son existence, si j'ose dire. Donc là, il est prévu une chose assez simple, c'est que, comme je l'ai cité tout à l'heure, l'employeur a un barème dans son logiciel de paye qu'il applique mécaniquement, si j'ose dire, à son nouvel embauché. Mais néanmoins, et ça c'est un des acquis de l'année supplémentaire, on a prévu la possibilité pour les entreprises qui le souhaiteraient, là aussi, vous voyez, liberté, option, de solliciter l'administration pour obtenir directement d'elle le taux qui s'applique à cette personne. Et donc on a une certaine souplesse et ça se passera convenablement.
Juste encore sur les cas particuliers, justement, c'était Pierre dans l'Isère qui nous avait laissé un message sur Twitter concernant les versements sur un PERP. Est-ce que n'est-il pas moins avantageux de cotiser cette année, à votre avis, Bruno Parent? Puis quid en général des mécanismes de défiscalisation, les Pinel, les Madelin, les Corem, les Préfonds, tout ça?
Une première remarque qui sera peut-être partagée, c'est que quand on fait un investissement, je suggère que ça soit pas seulement la fiscalité qui le motive, mais l'intérêt de l'investissement par lui-même. Mais ça, c'est juste au passage, parce
quelque
que
chose qu'on a peut-être un peu perdu de vue ces dernières années.
Et je dis ça parce que je suis sur BFM Business. Ouais. Quand même,
hein. Et vous êtes le bienvenu.
Ça me paraît quand même important parce que dans le passé, on a vu aussi, pardon, c'est une petite digression, des gens s'engouffrer dans des investissements parce que le miroir aux alouettes, pardon de le dire comme ça, de l'avantage fiscal était considérable et au bout du compte, ils ont eu, on ne peut pas dire autrement, non, des déboires.
Pour répondre, c'est donc en gros, 2018, c'est moins avantageux de cotiser sur le PERP cette année ou pas?
Il faut continuer à cotiser. Il n'y a aucune raison de s'arrêter, surtout que généralement, ce sont des versements réguliers. Donc, c'est pareil pour les emplois à domicile, c'est pareil pour les dons aux œuvres. Tout le système
change rien,
demeure.
Vous voulez dire quelque
oui,
part.
Il faut.
Les emplois à domicile, si quand vous êtes particulier et que vous allez devenir employeur, là, ça va vous compliquer un peu la tâche.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que l'avantage fiscal, puisqu'il en existe relatif à l'emploi à domicile, demeure. Donc, il n'y a aucune raison qu'il y ait de changement de comportement de ce point de vue-là.
Jean-Hugues Duménil, au-delà de vos réserves, donc on a parfaitement comprise, donc au travers de, on n'a pas envie de jouer le percepteur, il va falloir qu'on explique aux salariés. Comment est-ce que vous préparez? Est-ce que les logiciels de paie, ils sont prêts, configurés? Est-ce qu'au final, ça va vous coûter de l'argent, ce prélèvement à la source aussi?
Oui, alors c'est effectivement une des craintes, c'est le surcoût lié à cette mesure. Vous avez parlé de logiciels de paie. Mmh. Effectivement, c'est un sujet.
Ils sont prêts? Vous les avez achetés, ils sont prêts?
Non, bien sûr. Dans certains cas, oui, mais pas partout. Il y a la question des experts comptables, c'est-à-dire qu'ils vont être appelés à participer à cet effort. Probablement, ils vont refacturer aux entreprises. Il y a le temps consacré à l'information des salariés. Tout ça va représenter un coût. On parlait de 300 millions d'euros à peu près tout à l'heure. On peut le chiffrer par entreprise, entre 25 et 50 euros par salarié, en fonction de la taille de l'entreprise. Donc c'est un coût.
Vous nous dites le prélèvement à la source, il va me coûter entre 25 et 50 euros par salarié.
Au moment de la mise en place.
Au nom de quoi? Parce que vous avez acheté les logiciels de paye?
Parce qu'on a les logiciels de paye, parce qu'il y a les surcoûts des experts comptables, parce qu'on va y consacrer du temps des salariés pour les informer, qu'on va envoyer des courriers, etc., etc. Et tous ces calculs ont été faits par l'IGF, pas par nous. Et donc nous, ce qu'on souhaiterait côté CPME, c'est une compensation financière. Effectivement, Bercy probablement va... on espère faire des économies en tout cas avec ce dispositif. Il serait logique que si l'entrepreneur devient percepteur, il y ait une forme de compensation.
Et vous allez faire des économies ou pas avec grâce à ce prélèvement à la source?
Une fois qu'on aura surmonté, si j'ose dire collectivement, cette période de changement, il y aura quelques économies, mais qui sont extrêmement modestes pour une raison assez simple, c'est que actuellement le recouvrement de l'impôt sur le revenu est déjà très automatisé, donc on n'y consacre pas des effectifs considérables.
Il va y avoir des compensations ou pas
Ça n'est pas prévu. Ça n'est pas prévu. Mais pardon, si je peux ajouter d'un mot.
Allez-y, Bruno Parent, parce qu'on va bientôt se dire au revoir.
On a parlé de la DSN. Moi, je ne vais pas faire de décompte en deux colonnes, mais la DSN, c'est pas mon chiffrage, mais c'est un chiffrage qui a été, je crois, assez partagé, a permis, elle, d'économiser paraît-il, de l'ordre de 5 milliards de charges pour les entreprises.
Alors là, on se s'inscrit en faux contre.
Bon,
ça,
bah, désolé, mais là, on peut pas. Vous n'êtes pas convaincu.
Apparemment,
ça sera un outil de lutte contre la fraude fiscale ou pas le prélèvement à la source?
C'est pas le but. Non, c'est fait pour aider nos concitoyens. Et s'il y avait un retraité ou un bientôt retraité autour de la table, je suis sûr qu'il m'approuverait.
Bon, très bien. Donc vous n'êtes pas convaincu les deux.
Ben moi, je suis pas bientôt retraité. Désolé, mais je vous approuve.
François Perret, convaincu ou pas? On se dit au revoir. C'est juste ça.
En tout cas, pour se dire au revoir, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue non plus que le coût de préparation est immense, on l'a dit. Le coût de mise en place est important, mais le coût pérenne, c'est-à-dire chaque année, devra être lui aussi estimé autour de 3 à 4 euros par salarié après l'année de mise en place.
Bon,
c'est pas moi qui le dis, c'est l'Inspection Générale des Finances.
Bon, un mot pour terminer, Emmanuel.
Le même qu'au début, superflu.
C'est superflu. Bon, très très bien. Bon, en tout cas, un grand merci à vous.
Les Français, quand on les interroge, sont pas du même avis que vous. Les Français sont favorables au prélèvement à la source.
Eh ben, c'est dit. Bruno Parent, Directeur Général des Finances Publiques. Un grand merci de vous être prêté.
Merci
à
de votre invitation.
Question-réponse, question assez précise, mais bon, légitime, et on les comprend aussi, les chefs d'entreprise. Hein, Emmanuel Lechypre, à très bientôt. Éditorialiste économique à BFM Business. François Perret à la tête du nouvel institut Anaxagore, un think tank justement qui soutient la transformation des entreprises françaises. Et puis Jean-Yves Duménil, le secrétaire général de la CPME. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.